France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Et au téléphone sonne ce soir le feuilleton annuel des négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs de l'agroalimentaire. Des tractations qui détermineront le prix de nos courses dans les grandes surfaces pour les prochains mois. Les négociations ont commencé en décembre, elles s'achèveront au plus tard le 1er mars. Et pour ce point d'étape ce soir, on peut dire que comme l'an dernier, les réunions sont électriques. La grande distribution reprochant à certains groupes agro-industriels de réclamer de trop fortes augmentations, eh bien c'est une communication a priori bien réglée de la grande distribution. Mais est-ce que cette communication reflète toute la réalité? On va poser la question ce soir à nos invités. Tout cela semble encore bien opaque, alors que les consommateurs réclament au contraire plus de transparence sur les prix fixés en rayon. La consommation dans les grandes surfaces, c'est le thème ce soir. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Avec un premier auditeur, Géry. Bonsoir Géry.
Oui, bonsoir à tous.
Vous nous appelez des Hauts-de-France.
Oui, en fait.
Votre question?
J'ai eu l'expérience de la grande distribution. J'ai vu et entendu beaucoup de choses en direct. Il y a des choses que tout le monde voit. Puis il y a aussi les services de l'État qui arrivent à avoir des choses très discrètes, comme des ententes tacites entre les grands de la distribution. Mais par contre, au-dessus de tout ça, il y a la dictature des actionnaires, qui sont des gens extrêmement gourmands, qui veulent gagner, quelle que soit la conjoncture, toujours plus d'argent chaque année. Et c'est plus histoire d'investir son argent et puis accompagner une entreprise pendant 5 à 8 ans et espérer voir faire un petit bénéfice avec ses actions. Non, là, c'est quelles que soient les circonstances, je ne veux pas le savoir. Et on rogne surtout, on écrase les gens de la logistique, le personnel qui est dans les murs, et puis bien sûr les fournisseurs et les producteurs.
Eh bien, merci donc, de ce témoignage, Géry, qui a donc travaillé, si j'ai bien compris, dans la grande distribution. Avec pour vous répondre ce soir, trois invités. Anne-Sophie Alsif, vous êtes chef économiste de BDO France. Karine Jacquemart, directrice de Foodwatch, qui est une ONG qui milite pour les droits des consommateurs à manger sainement et en toute transparence, on en parlait. Et également Yves Puget, qui est journaliste de la distribution et de la consommation, également directeur de la rédaction du magazine LSA pour Libre Service Actualité. À qui je renvoie cette première question? Peut-être à vous, Anne-Sophie Alsif, chef économiste de BDO. Notre premier auditeur parle d'entente tacite, notamment entre les grands distributeurs. C'est vérifié, ça?
Alors c'est compliqué parce que moi j'ai pas de données de quel groupe on parle, de quel chiffre on parle, de quel secteur on parle. Donc moi je peux pas confirmer ou infirmer. Ce que je peux juste dire sur les prix globales, sur les chiffres macroéconomiques que publie également l'Institut national de statistique, c'est qu'on a, et c'est une très bonne nouvelle, il faut le dire, un très fort ralentissement de l'inflation cette année, parce qu'on devrait avoir 1,6% d'inflation.
1,5.
Rappelons, le mandat de la Banque centrale, c'est 2%, donc on a vraiment des prix qui ralentissent fortement. On a les salaires qui augmentent plus vite que l'inflation, donc on va regagner du pouvoir d'achat. Et dans ces ralentissements, qu'est-ce qui ralentit le plus? L'énergie. Deux, le second poste, c'est les denrées alimentaires. Donc là aussi, c'est une bonne nouvelle, après les hausses qu'on avait connues il y a encore 2 ans. Là, on revient dans une situation vraiment de ralentissement important. Pourquoi? Parce qu'on a le prix des matières premières qui sont effondrées, qui vont continuer de baisser. Donc ça, c'est vraiment les faits, les chiffres et qui montrent pourquoi on a eu un ralentissement des prix important pour l'alimentaire et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le premier vecteur qui fait que les prix, là, on a une hausse générale des prix. Après, plus spécifiquement, c'est sûr que là, moi, je vous parle du coût des matières premières. Dans un produit que l'on vend, il n'y a pas que la matière première. Il y a en effet le marketing, le transformé, le coût du transport, etc. Et là, en effet, on revient à ce que dit très bien votre auditeur, l'offre et la demande classique sur un marché ouvert où vous avez des acteurs qui, en effet, jouent le jeu. Il faut dire qu'en effet, il y a 2 ans, il y a eu une explosion des prix d'énergie. Donc, on a eu des marges qui ont été très faibles, notamment en 2022. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un rattrapage de ces taux de marge en 2023 et en 2024. En 2025, on est plutôt sur une stabilisation.
Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch. On a entendu d'ailleurs cette semaine également le patron des mousquetaires dire, chez nos cousins à France Info, dire que effectivement les actionnaires voulaient toujours se remplir les poches et c'est pour ça qu'il était difficile de rogner sur les prix. Vous en pensez quoi ?
Ce que Foodwatch a documenté depuis des mois et ce qu'on dénonce depuis, effectivement, quand c'était le pic de l'inflation l'année dernière, mais la situation de ce point de vue-là ne s'améliore pas, c'est qu'il y a une opacité totale sur la construction des prix et sur les marges que prennent les différents acteurs. Or, on ne parle pas de biens de consommation courante, on parle d'alimentation. Et le droit à une alimentation saine, choisie et durable est un droit fondamental pour toutes et tous. Donc là, on a quoi ? On a un système où on a un agriculteur et une agricultrice sur six au début de la chaîne qui vit sous le seuil de pauvreté. À l'autre bout de la chaîne, on a des millions de personnes, de consommateurs, de consommatrices qui sont confrontés à de la précarité alimentaire. En France, c'est totalement intolérable. Et au milieu, on a 70 multinationales qui, effectivement, font la pluie et le beau temps sur les prix. Et on a 5 grands distributeurs, les 5 grands noms que vous connaissez, on peut les lister, mais en tout cas, ils contrôlent 80% du marché. Et les deux ont profité de l'inflation. Et les deux, aujourd'hui, refusent ce que Foodwatch demande. Et on a plus de 50 000 signatures à la pétition sur foodwatch.fr.
Vous demandez quoi ?
On demandait de la transparence sur les marges par produit, pour chaque acteur, et aussi un encadrement des marges sur les produits les plus sains et les plus durables. Parce qu'on vient de lancer une nouvelle enquête cette semaine et on l'a démontré de nouveau. Les distributeurs, notamment, jouent sur des produits pas chers, mais moins équilibrés. Et en l'occurrence, on a fait une enquête sur 400 produits, 12 catégories de produits alimentaires. À chaque fois, on a comparé les 5 produits les moins chers et leur teneur en sucre en moyenne par rapport aux 5 produits les plus chers. Et dans toutes ces catégories, y compris des catégories où on ne s'attend pas à du sucre ajouté comme des conserves de petits pois, systématiquement, les produits les moins chers sont plus sucrés. Donc ils ont une responsabilité, les distributeurs aussi, de ce qu'ils mettent dans les rayons, de la qualité des produits et de à quel prix.
Yves Puget, je rappelle que vous êtes journaliste de la distribution et de la consommation. Si les coûts de production baissent, comment se fait-il que le consommateur en bout de chaîne ne le ressente pas toujours dans le porte-monnaie ?
Alors, je vais apporter déjà quelques précisions. D'abord, par rapport aux méchants actionnaires, 50% de la distribution française, ce sont des indépendants. Donc, ce sont pas des groupes intégrés, ce sont pas des gros actionnaires. Et après, il y a beaucoup de PME en France.
Oui, bon, on parle ce soir de la grande distribution, surtout.
Oui, mais 50%...
Mais vous faites bien de le préciser, absolument. 50%...
Ce sont des indépendants.
Voilà.
Et c'est une spécificité française. Après, il n'y a pas 5 distributeurs, il y en a 8, auxquels il faut rajouter les enseignes spécialisées comme Grand Frais, Picard ou même Amazon. Et il faudrait rajouter aussi la restauration, parce que la grande distribution, c'est à peu près 50% du débouché alimentaire pour un agriculteur, parce qu'il y a également la restauration et l'exportation. Après, oui, sur les prix, ils ont augmenté de 22% en 2 ans, entre 21 et 22%, ce qui est très lourd pour les consommateurs français. Oui, pour l'instant, on va dire que c'est plutôt stable. On va finir, l'année sera à peu près à plus 0,5%. Malheureusement, l'expression marche toujours, c'est-à-dire que les hausses de prix prennent l'ascenseur et les baisses de prix ne prennent que l'escalier. C'est beaucoup plus lent que les hausses. Ça reste compliqué. Et en France, sur le sujet du jour, on est un pays à part, on est le seul pays au monde où il y a une négociation annuelle avec une date butoir. En résumé, les industriels déposent, on va dire, leurs conditions générales de vente le 1er décembre et il faut que les négociations soient terminées le 1er mars à minuit. Ce qui ne veut pas dire que les prix vont tout à coup baisser ou monter dès le 1er mars, ça s'étale sur plusieurs mois.
Ouais. Anne-Sophie Alsif, qui réclame les fortes hausses que conteste d'ailleurs la grande distribution ? Est-ce que ce sont plutôt les grands groupes ou bien les PME ?
Alors, souvent les deux, hein, parce que comme ça a été très justement expliqué, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Les petites, moyennes entreprises, elles, de plein fouet, elles ont été beaucoup plus impactées par la hausse des coûts de l'énergie. Et comme elles sont plus petites, moins diversifiées, notamment au niveau international, eh bien, c'est plus difficile, on va dire, diversifier de son marché et de se dire, je vais me rattraper sur un autre produit ou sur une autre filiale. Donc, c'est vrai que les petites et moyennes entreprises ont été très touchées par l'augmentation des coûts de transport, beaucoup plus que les grands groupes qui peuvent diversifier. Les grands groupes, il y a une autre problématique. Hein. C'est vrai qu'ils ont eu, on a eu cette flambée des denrées alimentaires.
Depuis la guerre en Ukraine, notamment.
Voilà, dans énormément de pays, avec des pénuries. Donc là aussi, bien sûr, il y a eu les augmentations de prix. Et pour rester compétitif, il y a quand même eu une baisse des taux de marge. Hein. En 2022, on a vraiment eu une baisse des taux de marge quand vous regardez le secteur dans son ensemble. Donc justement, pour garder, essayer de limiter l'explosion des prix. Et donc c'est vrai que maintenant, quand vous avez fait un effort, vous êtes dans une situation, et c'était le cas l'année dernière et cette année, de reconstitution de vos taux de marge pour revenir à la situation d'avant-crise. Et c'est ça que les consommateurs auront senti, c'est-à-dire que alors que les prix de la matière première se sont effondrés, eh bien en effet, vous n'avez pas eu le lendemain votre prix de pâte ou de pain qui s'est effondré. Et puis juste pour finir, le prix, ce n'est pas que la matière première, ça a été très justement dit, et c'est vrai que tout ce qui est annexe, et plus votre produit est transformé, eh bien tous ces coûts et ces intermédiaires, eh bien on a vraiment eu une augmentation des prix, et ça on n'a pas forcément vu de baisse.
Karine Jacquemart.
Oui, c'est sur quoi Foodwatch a enquêté l'année dernière, et on l'a publié en novembre 2023, c'était quand même les chiffres, notamment de l'observatoire qui surveille du coup les prix et les marges sur l'alimentation, et qui montrait qu'il y avait une augmentation de la marge de l'industrie agroalimentaire qui allait au-delà de l'augmentation des coûts. Donc en d'autres termes, bien évidemment qu'une entreprise doit faire quelque part des profits, bien évidemment aussi que quand il y a une augmentation des coûts de l'énergie ou du blé à l'époque, c'est important de les répercuter dans le prix final. Mais là, ça allait bien au-delà. Il y avait un effet d'aubaine, et c'est pas moi qui le raconte. C'était le Fonds monétaire international et même la Banque centrale européenne. Quand ces institutions financières-là sonnent l'alerte, je pense qu'il y a largement le feu. Ce ne sont pas des grands lanceurs d'alerte d'ordinaire. Et quant à la grande distribution, elle-même avait des marges brutes qui ont beaucoup augmenté sur la période. On sait aussi qu'ils ont gagné beaucoup de parts de marché sur les produits qu'on appelle les produits marques de distributeurs, parce que les gens ont tendance à se rabattre sur les produits marques de distributeurs. Donc j'en appelle à leur responsabilité sur la question de l'alimentation saine et durable, parce qu'il y a alimentation et alimentation. Peuvent-ils s'engager enfin à de la transparence sur les marges sur ces produits-là ? Parce que ce qu'on a vu aussi, d'après toujours les chiffres officiels, c'est qu'il y a une tendance à surmarger sur les fruits et légumes et les produits plus sains, ce qu'on vient encore de démontrer avec l'enquête sur le sucre. Et je donne un chiffre, cet observatoire dont je parlais, alors c'est sur 2021 parce que souvent on a les données tard, mais ça illustre les bénéfices sur les fruits et légumes de la grande distribution, c'était plus de 247 millions d'euros après impôts. Ça compensait une perte sur la boulangerie de moins 65 millions. Mais enfin, comment justifier qu'on fait des marges si importantes sur des fruits et légumes, si importantes pour la nutrition et auxquelles tant de gens ne peuvent plus accéder? Donc j'en appelle à leur responsabilité, à un engagement fort.
Et on viendra dans un instant sur la condition des agriculteurs et notamment la loi Edalim. Nous allons au standard avec Sadine. Bonsoir Sadine, vous avez une expérience de consommatrice en Nouvelle-Calédonie, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis allée effectivement en janvier dernier en Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, là, j'ai fréquenté les supermarchés, Carrefour en particulier pour ne pas le nommer. Et quand on va dans les rayons de fruits et de légumes, systématiquement, pour chaque produit, on a trois prix affichés. Celui du producteur au grossiste, celui du grossiste au distributeur et celui du distributeur au consommateur. Donc ça permet de voir quelle est la marge qui est faite et à la limite de consommer plus raisonnable de notre part et plus engagé. Parce qu'on nous dit toujours yaka, il faut, et c'est les consommateurs qui font la loi, mais si on ne sait rien, là au moins tout est affiché.
Merci de ce témoignage. Alors l'exemple de la Nouvelle-Calédonie est un peu à part parce qu'il y a des règles et des lois locales dans ce territoire du Pacifique. Yves Puget, la transparence toujours réclamée par les consommateurs donc?
Non, par des associations de consommateurs, c'est-à-dire publier les marges, ça n'a strictement aucun sens parce que les marges, elles bougent et je ne connais aucun secteur au monde qui publie les marges de chacun de ces produits. Vous achetez pas une voiture en connaissant la marge de la voiture. Ce qu'il faut, c'est de l'honnêteté. Ça, oui, quand c'est pas honnête et la DGCCRF veille, il faut condamner. Et très
la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
Oui, pardon, exactement. Donc non, marquer la marge de chaque produit, non, ça c'est une hérésie. En revanche, oui sur l'honnêteté, oui sur les contrôles, 100 fois oui.
Yves Puget, cette période de négociation, elle ne concerne pas que les prix dans la grande distribution. Qu'est-ce que ça impacte également ?
Alors oui, c'est toujours, on a ce prisme du prix. Non, ce sont des rounds plusieurs fois. L'industriel va dans un box pour voir le distributeur. On parle bien évidemment du prix, c'est-à-dire que l'industriel vient avec un tarif. On va dire qu'en ce moment, l'industriel est plutôt en train de demander du plus 4%, et le distributeur, lui, est plutôt en train de lui demander du moins 4%. Donc après, se joue la négociation. J'ai envie de dire, ça va peut-être se terminer à 0 ou 1%. Mais on ne parle pas que du prix. Il y a également l'assortiment, c'est-à-dire que l'industriel vient avec un objectif. Il veut dire, je veux tant de références dans les rayons, voici mes innovations pour 2025. Et on va parler des promotions. C'est-à-dire quelqu'un qui va demander plus 4 sans promotion, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va demander plus 6, mais avec beaucoup de promotions. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un plan d'affaires. Médiatiquement, tout le monde résume ça au prix, mais non, la négociation commerciale, ce n'est pas que le prix, c'est un plan d'affaires.
Karine Jacquemart, au-delà du prix, vous attendez quoi de ces négociations? Et la transparence, on a bien compris, ça fait 3 fois que vous nous donnez ce message.
Non, mais c'est essentiel, parce que comment compter sur l'honnêteté de géants de l'industrie agroalimentaire et des grands distributeurs quand on voit le résultat qui est aujourd'hui des millions de concitoyens, concitoyennes qui n'accèdent pas à une alimentation saine, quand on voit l'évolution de maladies chroniques liées en grande partie à la malbouffe et la malnutrition, et c'est pas moi qui le dis là encore, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc moi je veux bien faire une confiance, mais elle ne sera pas aveugle, parce que le résultat de cette confiance qui serait aveugle, c'est un système aujourd'hui qui est totalement à la dérive et qui a en plus des coûts publics énormes, puisque les coûts de santé publique et les coûts sur l'environnement de ce système alimentaire aujourd'hui qui ne fonctionne pas et qui n'est qu'au profit de quelques-uns, ça n'est pas possible. Donc l'honnêteté, j'adorerais pouvoir compter dessus, j'attends des preuves. Et pour avoir fait beaucoup de débats et rencontré régulièrement les dirigeants de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire, ils disent régulièrement les yeux dans les yeux et dans les débats publics, ils sont prêt à cette transparence, pardon d'en reparler, mais la transparence, ça redonnera de la confiance.
Mais pour être, aujourd'hui, pour être précis sur la santé publique, qui oblige les fabricants et les distributeurs qui les vendent de mettre du sucre, plus de sucre, toujours plus
dans
les
produits ? Mais personne ne les oblige. Et justement, l'auditrice avait totalement raison. Elle disait en fait quoi ? Elle disait, on a tendance à mettre la responsabilité sur les consommateurs et les consommatrices, alors que, un, ils ont très peu accès à la vraie information sur les produits. On peut reparler de beaucoup de désinformation. On peut reparler... Oui, mais qui n'est pas obligatoire.
Et où le Nutri-Score, on va rappeler ce que c'est ce label...
Le Nutri-Score, c'est un logo nutritionnel qui est développé par des scientifiques de façon indépendante, qui est fait pour informer, avec un logo de A à E et des couleurs, les consommateurs, les consommatrices, pour comparer la qualité nutritionnelle des produits entre eux dans une même catégorie. Et il se trouve qu'il y a des grands, justement, géants comme Danone, qui se permettent de sortir du Nutri-Score quand tout d'un coup, le calcul de la note ne les arrange pas. Donc encore une fois,
aussi qui existe.
Mais encore une fois, moi je parle juste d'alimentation saine et d'un droit fondamental. Je parle pas de tout. Donc on demande pas la lune, mais sur l'accès à ces produits-là, c'est un droit fondamental. Donc oui, il faut de l'engagement. Oui, il faut des règles. Et oui, il faut de la transparence, parce que faire confiance, ça ne marche pas. Donc prouvez que vous n'abusez pas. Prouvez qu'il n'y a pas de profiteurs de l'inflation. Prouvez que vous ne surmargez pas sur les produits les plus sains. Encore une fois, notre enquête sur le sucre, les produits moins chers sont plus sucrés. Ça démontre une fois de plus qu'il y a des pratiques abusives.
Anne-Sophie Alsif, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a que des preuves d'honnêteté.
Preuve d'honnêteté, mais c'est vrai que je pense qu'il faut nuancer, notamment sur l'accès à l'information. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'il y avait encore il y a 10-15 ans, on a quand même beaucoup plus d'accès à ce qu'il y a dans les produits. Je prends le fameux exemple des soupes. On se souvient même qu'on a tous connu cette publicité. On disait il y a beaucoup de choses dans la soupe sauf des légumes. On se souvient des E31, etc. Et on voit que avec cette transparence d'information, des reportages et en effet d'avoir plus d'informations dans ce qu'il y a, quels légumes et autres, il y a quand même eu des améliorations. Donc on ne peut pas dire que, et d'ailleurs c'est aussi l'intérêt pour les agroalimentaires, d'avoir des produits qui soient plus qualitatifs. Alors souvent c'est plus cher, c'est ça le problème, donc ça pose le problème de l'accès. Le jambon, c'est vraiment incroyable, les différences de prix quand vous avez dans ce qu'il y a dedans. Donc à mon sens, c'est plus ça le problème, c'est qu'on a accès à l'info, alors il faut encore l'augmenter, mais il y a un problème d'avoir accès, et comme vous l'avez dit très justement, de dichotomie qui s'accroît entre les produits bas de gamme qui deviennent de plus en plus mauvais pour la santé et ceux milieu moyen de gamme qui sont bons mais qui deviennent vraiment chers. Et c'est ça, à mon sens, la problématique.
Un dernier mot
sur le jambon, parce qu'en fait, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la responsabilité qui amène vraiment des conséquences extrêmement graves sur la santé publique aussi. La responsabilité d'un marché à double vitesse. Sur le jambon, par exemple, donc Foodwatch lutte aussi pour faire interdire un certain nombre d'additifs dangereux pour la santé, parce que même s'ils sont écrits dans la liste, les noms sont incompréhensibles, et il y en a 320 autorisés aujourd'hui en Europe, c'est encore trop. Mais surtout, il s'est passé quoi avec le lobby de la charcuterie ? Ils ont préféré bloquer une loi qui aurait permis d'interdire ces additifs, alors que, bien sûr, on est prêt à les aider, et on demande au ministère d'accompagner cette transition, parce qu'en fait, les géants de l'industrie de la charcuterie préfèrent alimenter un marché à deux vitesses avec des produits sans ces additifs, donc avec moins de risques pour la santé, plus cher pour ceux qui ont les moyens, tandis qu'ils peuvent continuer à avoir du jambon bien rose, puisque c'est la couleur que donnent ces additifs, moins cher. Donc encore une fois, quand vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le choix que d'acheter des produits qui sont moins bons pour votre santé, voire carrément mauvais pour votre santé.
Mais vous êtes quand même d'accord de dire qu'il y a quand même quelques améliorations sur l'augmentation de l'information. Et pour l'industriel, on parlait des soupes. À un moment, cet industriel n'en vend plus parce que voilà, il n'y a que des E, etc. dedans. Bah, ce n'est pas son intérêt de plus vendre ses soupes non plus.
Il y a quelques améliorations parce qu'il y a une réglementation européenne qui est très forte et que du coup, on se bat pour qu'elle soit encore renforcée et encore mieux améliorée. Mais si vous regardez, il y a aussi, si vous voulez, Foodwatch, on a une campagne qui s'appelle Arnaque sur l'étiquette. Donc en fait, toute l'année, on continue néanmoins à pointer du doigt de la désinformation qui est organisée. Mais le plus grave aujourd'hui, et le sujet qui nous occupe, c'est le marché à deux vitesses économique et de l'accès.
Yves Puget, est-ce qu'on a fait de gros progrès dans l'information du consommateur ces dernières années ?
Oui, de très gros progrès, mais je rajouterais par rapport à ce que j'ai entendu sur les, on va dire, les premiers prix, la qualité baisse. Non, les distributeurs font des efforts sur la qualité des premiers prix des marques de distributeurs et depuis des années. Est-ce qu'il existe des écarts de qualité entre les premiers prix et des grandes marques ? Bien évidemment. Et découvrir que les produits premiers prix sont de moins bonne qualité que les grandes marques ou les produits les grandes marques, je dirais, c'est un peu dire que l'eau ça mouille, le feu ça brûle.
Mais je vais vous me poser la même question qu'à Karine Jacquemart tout à l'heure. Pourquoi mettre du sucre dans les petits pois ? C'est parce que le sucre, ça fait vendre ? Tout simplement.
Parce que sinon, ceux qui les achètent trouveront ça moins bon. Je le regrette, moi également. Il y a des raisons que je peux regretter. Je suis pas en train de défendre. Je fais juste un constat. Ils ne font pas ça juste par plaisir. Et je peux vous assurer qu'il y a aussi des nutritionnistes chez les distributeurs qui font les marques de distributeurs. Donc non, malheureusement, oui, il y a des écarts de qualité entre un premier prix qui est 40 à 50% moins cher qu'une marque nationale. Et malheureusement, ça se voit dans la recette. Mais la question, c'est que si vous supprimer ces petites astuces, on va dire, de recettes ou marketing, ces produits ne sont plus achetés alors que ça correspond à des demandes. Donc, est-ce qu'on doit aussi interdire l'accès à ces produits de ces catégories de personnes qui, malheureusement, et il y en a de plus en plus, encore une fois, malheureusement, ont de vrais problèmes de pouvoir d'achat. Donc oui, c'est un vrai sujet. La qualité des produits, elle s'améliore. On peut toujours dire que c'est pas suffisant. Oui, je suis d'accord. L'information, pour répondre à votre question, s'améliore. Et demain, ça irait encore plus vite avec le QR code qu'on connaît tous malheureusement depuis le Covid. Des informations, on en trouvera de plus en plus sur les QR codes, sur les emballages. Et donc ça, c'est une bonne chose.
Anne-Sophie Alsif, un dernier mot sur ce sujet ?
Alors, les astuces, c'est vrai que le sucre est là, toutes les études le montrent, et même économiquement, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes qui aussi font des efforts dessus en disant moins de sucre, moins de sel, parce que ils perdent des consommateurs à cause de ça. Il y a quand même eu depuis 20 ans, et ça a été très bien dit, hein, une très forte augmentation de ce sucre qui est addictif. Hein. Il y a beaucoup d'études cérébrales qui expliquent qu'après vous développez des addictions, et donc en effet, c'est plus facile de vendre certains produits et des contenus, des quantités qui sont quand même très importante et qui pose en effet une question de santé publique. Mais là où il y a une bonne nouvelle justement sur l'accès à l'information, et à mon sens c'est vraiment ce qui est central, c'est que justement aujourd'hui le consommateur, en ayant cette info, peut sanctionner. Et on le voit pour le jambon, on le voit aussi même pour les gâteaux, etc. Il y a eu quand même beaucoup d'améliorations chez les agroalimentaires pour avoir un goût qui reste attractif et moins de sucre, ou en tout cas sucré différemment.
Les rapports entre la grande distribution et ses fournisseurs, et au final, quel prix dans les rayons, on en parle jusqu'à 20h.
France Inter. Le téléphone sonne.
Avec les fortes inflations des dernières années, les clients ont parfois délaissé la grande distribution pour aller vers les hard discounters. Yves Puget, est-ce que ces mêmes clients aujourd'hui qui peut-être découvrent le hard discount seraient prêts à revenir vers les distributeurs si les prix baissaient aussi ?
Alors, je me permettrai de vous contredire. Non, le hard discount, c'est C'est pas un raz-de-marée. Ceux qui gagnent des parts de marché aujourd'hui, ce sont des hypermarchés, des supermarchés bien classiques. Si je peux citer des marques, c'est Leclerc et Intermarché, par exemple. Le hard discount allemand, façon Aldi, Lidl, serait en train de stagner.
Ce qui est mais certain, aujourd'hui, Yves Fugé, juste sur ce point, les distributeurs mènent tout de même des stratégies assez agressives aujourd'hui pour concurrencer le hard discount.
Bah oui, des stratégies agressives, oui, ça c'est certain, mais Leclerc a plutôt une stratégie agressive pour concurrencer Carrefour ou pour concurrencer Auchan. Le seul hard discounter qui inquiète beaucoup de personnes aujourd'hui, qui est pas vraiment un hard discounter mais un discounter, c'est l'enseigne Action qui a plus de 800 magasins et qui ne cesse de progresser. Aldi est plutôt en perte de vitesse et Lidl est plutôt en train de stagner.
Et Action ne vend pas encore de légumes et de fruits et légumes.
Non, il y a quelques produits alimentaires, mais il n'y a pas de fruits et légumes et il n'y a pas de viande.
Je vous renvoie à cette autre question qui vous est demandée par notre auditeur Yves Puget. N'y a-t-il pas trop de concentration désormais chez les distributeurs au détriment d'une réelle concurrence qui ferait baisser les prix ?
Alors, si je peux me permettre une caricature, c'est ce que j'entends souvent, le monopole de la grande distribution. Ben oui, la télé a le monopole de la télé, la radio le monopole de la radio. Non, il y a 8 groupes de distribution en France spécialisés dans l'alimentaire. Si on réduit avec leur alliance, parce que c'est vrai, par exemple, qu'au champ Intermarché, ça tombe à 6. Mais encore une fois, vous avez toutes les enseignes spécialisées et vous avez Internet et vous avez les marchés et sinon il y a également la restauration. Donc la France n'est pas un pays très concentré par rapport à d'autres pays. On est dans la moyenne.
Karine Jacquemart, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, enfin, on voit bien, et d'ailleurs, quand on le visualise, il y a un goulet d'étranglement quand même. C'est-à-dire que, là, et puis les 5 premiers, donc les Leclerc, Auchan, Carrefour, Intermarché, Coopérative U, ont quand même une mainmise extrêmement importante sur ce marché. Et donc, une responsabilité extrêmement importante. Et encore une fois, on ne parle pas d'aspirateur. Quand on parle d'alimentation et des produits d'alimentation saine et durable, ça leur donne une responsabilité parce qu'ils font la pluie et le beau temps sur ce marché.
Anne-Sophie Alsif, comme l'an dernier, si les distributeurs et les industriels ne s'entendent pas sur les prix 2025, est-ce que ce sera bien au gouvernement d'arbitrer ?
Alors, bon, normalement, ils doivent...
Mais l'an dernier, je crois que le gouvernement était un peu intervenu tout de même.
Oui, parce qu'on avait eu des hausses très importantes. Je me souviens qu'ils avaient été convoqués à Bercy pour se faire un peu taper sur les doigts. Mais voilà, le gouvernement peut encadrer, peut inciter. On reste dans un marché libre. Donc, c'est pas eux qui, encore une fois, décident de fixer les prix. Hein. Donc ça, non. Mais en effet, ils peuvent faire monter la pression, dire sur certains produits, limiter les hausses. Après, encore une fois, c'est vrai que macroéconomiquement, comme on a quand même un ralentissement général, encore une fois, général, notamment en raison de la baisse des prix des matières premières, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inflation se situe plus dans les services que dans l'alimentaire. Donc, il y a un ressenti qui peut toujours exister, mais on n'est plus du tout dans la situation qu'on a connue il y a quand même 2 ans.
Yves Puget, sur la marge de manœuvre du gouvernement pour intervenir peut-être dans ces négociations commerciales ?
Oh, on est dans un pays où tout est écrit par la loi et surécrit même. Non, le 1er mars à minuit, il faut que les industriels et distributeurs paraffent leur contrat. Sinon, il y a des amendes possibles. Après, il y a eu des amendes dernièrement et de lourdes amendes en raison des eurocentrales où les distributeurs français, enfin on va dire certains distributeurs français, ont pensé qu'ils pouvaient sortir de la voie française. Ils ont été rattrapés par la patrouille. Bercy leur a donné des amendes. Il faut respecter la date du 1er mars à minuit pour signer les conventions.
Karine Jacquemart.
Bah quand il y a des lois, il faut aussi les respecter, parce qu'il y a des lois effectivement qu'on appelle Egalim, qui essaient aussi de d'équilibrer pour s'assurer que les producteurs, les productrices aient des prix justes, parce que ce qu'on veut, c'est quoi ? C'est des prix justes pour les producteurs, les productrices agricoles, et in fine, des produits abordables pour les gens. Mais il y a aussi les distributeurs qui utilisent de plus en plus des centrales d'achat européennes pour contourner la loi, c'est bien documenté. Mais surtout, bien sûr que c'est le rôle de l'État, pas surtout, encore une fois, moi je ne suis pas contre les profits des entreprises, contre même les lobbies qui les défendent. Je suis juste pour défendre une ligne rouge qui s'appelle les droits fondamentaux et la santé publique. Donc, il se trouve qu'au plus fort de l'inflation, le président de la République et le ministre de l'économie que j'ai rencontré à l'époque, Bruno Le Maire, s'était engagé publiquement à une modération des marges sur les produits alimentaires. Et nous, on ne fait que demander que cette modération advienne sur les produits les plus sains, les plus durables. Il y a un programme national qui s'appelle Nutrition Santé, le PNNS, eh bien respectons-le. Et pour les produits des critères du PNNS, oui, qu'il y ait un engagement des acteurs de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution, mais aussi que l'État siffle la fin de la récré et garantisse l'accès de toutes et tous à des produits sains.
Vous avez parlé de la loi Egalim, Anne-Sophie Elsy, il faut rappeler que depuis 2018, cette loi, enfin, ces lois successives Egalim sont censées protéger les agriculteurs pour qu'ils ne soient plus payés en deçà de leur coût de production. Est-ce que cette loi Egalim est toujours respectée?
Alors, je pense que ça dépend beaucoup des secteurs. Là, c'est vrai qu'on parle toujours aussi de l'agriculture, hein, comme on parle des Français, des ménages. Bon, moi, c'est vrai que je regarde par catégorie, il y a de très grandes différences aussi chez les producteurs et chez les agriculteurs. Entre un céréalier ou une personne justement qui fait des betteraves et fait du sucre, on n'est pas dans la même situation qu'un éleveur qui fait du bio ou qui a un petit élevage. Donc non, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Et la difficulté, à mon sens, alors on en a beaucoup parlé du bio avec l'augmentation des prix, c'est vrai qu'avant cette crise alimentaire, on avait quand même une progression du bio qui permettait d'avoir de plus en plus d'exploitations et la réforme de la PAC avait permis aussi de favoriser ces exploitations. Là, c'est vrai qu'on a eu un retour en arrière. Donc, à mon sens, c'est vraiment ça la bataille, hein. C'est essayer de développer cette agriculture plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Et malheureusement, quand vous avez un choc, une crise économique, c'est beaucoup plus compliqué.
Yves Puget, vous souhaitiez réagir?
Oui, effectivement, il y a eu des condamnations de distributeurs par rapport à Egalim, mais juste à ma connaissance, je crois ne pas me tromper, mais je vérifierai après, c'est juste sur le non-respect de la date butoir. C'est donc plus sur la forme que sur le fond, et je pense qu'il n'y a pas eu de condamnation de distributeurs par Bercy, sur le non-respect, effectivement, du respect de la matière première, du coût de la matière première, des matières premières agricoles. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'Egalim n'a pas fonctionné sur ce point-là. À ma connaissance, sur l'instant, les condamnations, et elles sont légitimes si ça a été le cas, ont été justes sur le non-respect des délais.
Et concernant les produits frais, fruits et légumes, Yves Puget, les distributeurs ne peuvent pas faire trop de promotion sur ces produits-là, là encore pour garantir le revenu des agriculteurs, non? C'est encadré tout ça?
Oui, c'est encadré. Sur l'alimentaire, bon, la loi Egalim a plafonné les promotions à 34%, parce que tout le monde se souvient, on va dire, des émeutes dans un magasin pour une pâte à tartiner, où il y avait des promos à 80%. Donc là, la loi Egalim a plafonné les promotions à 34%, et c'était pour l'alimentaire. Et la loi de Crozaille l'année dernière a plafonné les promotions également pour l'hygiène beauté et l'entretien à 34%, et les distributeurs demandent l'annulation de ce volet de la loi des Crozailles.
01 45 24 7000, on va retourner au standard parce que Julien nous attend. Bonsoir Julien.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Gironde.
Tout à fait. Moi j'ai bossé pendant 8 ans dans le para-agricole et je voudrais parler de la réalité aussi dans ces box de négociation où quand on est un groupement d'agriculteurs ou des agriculteurs français, on est quand même beaucoup plus martyrisé vu qu'on peut être mis en concurrence entre nous français mais aussi on peut être mis en concurrence à l'étranger par rapport aux industriels comme Nutella ou Coca pour ne pas les citer qui eux sont des marques irremplaçables et où là la grande distribution est beaucoup plus gentille et un peu plus obligée de se plier aux demandes d'augmentation. Donc voilà, je pense que la grande distribution ne répond qu'à la force et qu'il faut des lois plus fortes pour rétablir cet équilibre, puisque de toute façon, voilà, face aux grands industriels, les grandes distributions acceptent plus de choses que face aux petits agriculteurs, et malheureusement, c'est eux qui, à l'heure actuelle, nous nourrissent.
Je vais me tourner vers Yves Puget. La grande distribution serait donc forte avec les faibles et inversement?
J'ai quasiment envie de dire l'inverse, c'est-à-dire les distributeurs depuis un certain nombre d'années font des efforts avec les PME. Après, il faut savoir qu'un petit agriculteur, il passe pas par une centrale d'achat à Bruxelles ou à Madrid. Très généralement, il passe directement en direct avec le magasin. Les négociations commerciales se terminent généralement en premier pour les petites entreprises et c'est après que ça devient le plus musclé avec les grands groupes. Donc ces dernières années, on va dire depuis moins de 10 ans, ça s'est un peu inversé. Je trouve que les distributeurs ont fait beaucoup d'efforts, certainement pas suffisamment pour les PME, les TPE concernés, les producteurs, mais la distribution essaye de faire des efforts et les gros rapports de force, malheureusement pour eux, seraient plutôt du côté des grands groupes.
Karine Jacquemart.
Oui, en fait, on n'en sait rien, parce que la clé de la grande distribution dans ces négociations, et encore une fois vis-à-vis des consommateurs, consommatrices et des agriculteurs, agricultrices, c'est l'opacité. Donc moi, j'adorerais savoir avec qui ils sont durs, avec qui ils sont faibles, et surtout, j'adorerais savoir, encore une fois, quelles sont leurs marges sur les différentes catégories de produits. Et c'est surtout ça qui fait défaut. La réputation de ces négociations, c'est quand même que, effectivement, c'est encore une fois le profit qui prime. Moi, j'aimerais savoir comment il y a une équation où ces acteurs font certes du profit, mais où les agriculteurs vivent de leur production et les consommateurs peuvent accéder à une alimentation saine. Je me répète, mais tant qu'il n'y aura pas d'engagement concret et par l'État et par ses acteurs, et j'invite vraiment les Dominique Schellcher et tous les autres, hein, Michel-Edouard Leclerc et tous les dirigeants de ces grandes chaînes, de s'en tenir à la parole qu'ils disent dans les débats publics. C'est pas eux, c'est l'industrie agroalimentaire. Si, eux aussi ont une responsabilité. Et qu'est-ce qu'ils sont prêts publiquement à mettre sur la table? Quel engagement ils sont prêts à prendre pour qu'il y ait un meilleur équilibre et un accès pour toutes et tous à une alimentation saine, en dehors des box.
Un dernier thème, en quelques secondes, avec la hausse de l'inflation de ces dernières années, les Français ont changé leurs habitudes de consommation, consommer moins cher, consommer différemment. Anne-Sophie Alsif, on consomme comment différemment ?
Et oui, c'est ce que je disais. Hein. Malheureusement, c'est vrai qu'il y avait une progression du bio, les fruits et légumes. Hein, il y avait une campagne pour justement consommer plus. Et c'est vrai qu'avec l'augmentation des prix, eh bien, on consomme plus étranger que français parce que souvent, c'est un peu plus cher et beaucoup plus de produits transformés et moins de produits frais. Donc là aussi, hein, c'est ça la grande difficulté. C'est que dès que vous avez une crise, vous avez vraiment un retour en arrière. Et on l'a dit, en termes de santé, de précarité alimentaire, ça continue de croître. Moi, quand même, pour finir, hein, je suis quand même toujours assez optimiste, notamment concernant le consommateur, parce qu'il faut dire qu'il y a 2 ans, il pouvait y avoir toutes les marges, les prix ont explosé, en fait les gens n'achetaient juste plus rien. Et donc ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu pour la première fois quasiment depuis la Seconde Guerre mondiale, une baisse de la consommation de la nourriture, les gens se nourrissaient plus. Donc ils achetaient même pas ailleurs moins cher, etc. Ils n'achetaient juste plus. Et donc voilà, c'est pour ça que le consommateur a quand même à mon sens un vrai pouvoir, et il a vraiment le pouvoir de changer ce qu'il mange.
Et on relaiera cet appel à la transparence donc sur le prix dans les grandes surfaces. Le téléphone sonne, c'est terminé, merci à tous les trois. Dans un instant, le flash de 20h, puis ce sera leur philo, la philosophie, votre émission. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Éric Delbeau.
Sur quel thème ce soir?
Alors, on va parler de nos déchets et de tous ces objets là qui finissent à la poubelle. Je remarque que vous avez des verres en verre, c'est très bien.
Mais les déchets, c'est une question de philosophie.
Ah bah oui, absolument. Philosophie du déchet, c'est même le titre du livre d'une de mes invités.
Leur philo, ce sera après les infos de 20h et après les petits bateaux qui devront répondre à cette question.
Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 9 ans et j'aimerais bien savoir si un pays pourrait complètement couper le réseau Internet dans notre pays. Merci, au revoir.